Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour. Nul ne peut dire aujourd'hui quels vont être, dans les jours et semaines à venir, voire mois, les développements du conflit qui oppose les États-Unis et Israël à l'Iran. L'éternelle question du brouillard de la guerre ne cesse de se poser, même en ce 21e siècle. Et au Libre Journal de la Défense, nous avons Axel et moi. Bonjour Axel.
Bonjour Philippe.
Choisi aujourd'hui de vous proposer de prendre un peu de recul et de nous interroger sur cette puissance militaire américaine que l'on peut voir à l'œuvre, notamment sur nos écrans, cet outil impressionnant de l'Imperium américain. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir une fois encore Sylvain Ferreira, que je salue. Bonjour Sylvain.
Bonjour Philippe, bonjour Axel.
Auteur d'un ouvrage récent intitulé « La fin de la domination américaine, point d'interrogation », mais qui, en réalité, nous semble d'abord et avant tout un point de situation de 200 pages, très documenté, précis, technique, sur les forces armées des États-Unis, avec effectivement, à l'horizon, l'interrogation que l'on retrouve aussi en quatrième de couverture. Est-ce que ces forces auront la capacité de maintenir la Pax Americana sur le monde au XXIe siècle? Des forces dont on va voir au long de cette heure et demie d'entretien qu'elles sont à la croisée des chemins du point de vue des grandes évolutions géopolitiques, du point de vue de leur doctrine, du point de vue de leurs moyens et du point de vue de leur budget. Alors, avant de commencer notre émission, et de façon très classique, je me tourne vers Axel, qui va, si besoin en était, de nous présenter ou de nous représenter Sylvain Ferreira.
Voilà, Sylvain Ferreira, vous êtes historien et essayiste, vous êtes titulaire d'un master en histoire et vous êtes spécialisé dans l'histoire militaire, notamment l'évolution de l'art de la guerre de 1850 à 1945, c'est-à-dire la période allant de la guerre de Crimée à la Deuxième Guerre mondiale, avec un intérêt particulier pour l'émergence de l'art opératif. Sur ces sujets, vous avez publié de nombreux ouvrages et articles de référence, parmi lesquels, en 2025, la bataille des Ardennes, Chelem Edit, en 2018, l'inévitable défaite allemande, toujours Chelem Edit, en 2018, également la campagne de Virginie de Grant, chez Economica, et en 2017, la Marne, une victoire opérationnelle chez Lem Edit. Vous êtes également consultant pour des séries documentaires télévisées et vous intervenez ponctuellement dans les médias télévisuels pour commenter l'actualité militaire, géopolitique et stratégique avec une vision critique de l'atlantisme. Et donc, vous dépassez votre centre d'intérêt qui était l'émergence de l'art opératif pour en venir à l'actualité brûlante. Voilà pour une rapide présentation.
Alors, comme je l'indiquais dans ma petite introduction, nous allons essayer de nous élever au-dessus de cette actualité brûlante pour évoquer ces forces armées américaines tellement impressionnantes, mais qui, comme toute chose ici-bas, ont des limites. Alors, comme les armées sont faites pour œuvrer dans un certain environnement stratégique, la première partie de notre émission est consacrée à ce cadre stratégique et notamment, premier point, les évolutions de ce cadre stratégique avec ce que vous appelez cette bascule, ce pivot vers le Pacifique qu'il est important à prendre en compte parce que ça explique beaucoup de choses dans les évolutions doctrinales et dans les évolutions en matière d'équipement de ces forces armées américaines. Alors, premier point, cher Sylvain Ferreira, c'est cette évolution du cadre stratégique qui tourne les armées américaines vers le Pacifique. Alors, voilà, vous pouvez peut-être nous rebrosser cette réorientation stratégique qui conditionne énormément de choses pour les évolutions de ces forces armées des États-Unis.
Oui, alors juste avant de commencer, parce que quand on a préparé l'émission, ce n'était pas d'actualité, et donc Axel n'a pas mentionné mon premier ouvrage qui devient de plus en plus une nouvelle actualité, c'est que mon premier ouvrage traitait de l'expédition française aux Dardanelles en 1915, ou on aurait pu le sous-titrer « Comment débloquer un Détroit ?». Et je pense qu'au cours de l'émission, on aura l'occasion de reparler des problèmes de Détroit et de leur déblocage. Voilà, je me permettais juste d'ajouter ça. Alors, les forces armées américaines, on le sait tous, pendant près de 70 ans, elles ont été dimensionnées dans le cadre de la guerre froide pour l'éventuelle grande confrontation, le grand règlement de compte avec le camp communiste et en particulier soviétique. Et puis, à partir de la fin de la guerre froide, il a fallu trouver une réorientation en fonction de l'évolution de la géopolitique et des forces en présence, hein, puisque la Russie des années 90 était en train de descendre vers les abîmes, et que parallèlement, la Chine prenait de plus en plus d'importance, alors de manière un peu paradoxale, parce que c'était avec l'assentiment sur le plan économique des puissances occidentales, hein, on se souvient de l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce, etc. Et tout ça a permis à la Chine de devenir non seulement, de redevenir une puissance économique majeure. Hein. Je rappelle que d'après ce que disent mes collègues historiens de l'économie, la Chine produisait déjà un quart des produits manufacturés au moment de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, elle redevenait une puissance économique mondiale. Et bien évidemment, ça lui permettait de développer un outil militaire bien plus important que celui qu'elle avait jusqu'alors, de le moderniser. Et donc, pour les États-Unis, ça devenait l'adversaire principal désormais par rapport à ce qu'avait été la nécessité de se confronter potentiellement à l'Union soviétique et éventuellement à la Chine pendant la guerre froide, quoique depuis 1973, cette éventualité était de plus en plus faible. Et donc, les États-Unis se sont aussi rendus compte d'une chose, c'est que par rapport à cette volonté qu'on a eue partout en Occident de profiter de ce qu'on a appelé les dividendes de la paix, eh bien, on allait devoir faire des choix budgétaires, des choix doctrinaux, pour ne garder finalement que des moyens capables d'affronter la Chine et la Chine toute seule, en se désintéressant du vieux continent. Et tout ça se déroule, je le précise, hein, bien avant l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Hein, c'est des tendances très lourdes de la politique américaine qui ont été amorcées sous Bill Clinton et puis qui ont été affirmées officiellement par déjà Barack Obama. Hein, donc on voit bien que là, il n'y a pas les républicains plus que les démocrates ou ce genre de choses. Avec cette idée, voilà, on n'a plus autant de moyens qu'avant, on ne veut plus en tout cas en consacrer autant qu'avant à la défense. Et donc, il va falloir resserrer tout ça vers la Chine et quasiment uniquement vers la Chine, puisqu'on a aussi une guerre économique en parallèle qui va se mettre en place à partir du milieu des années 2010. Donc, bien évidemment, il y a toujours un volet militaire et un volet économique. Hein, c'est les deux pieds de la confrontation potentielle, donc, enfin, ou les deux jambes, comme on voudrait. Et donc, on a commencé à prévoir un seul grand adversaire pour les forces armées américaines. Et au milieu de tout ça, s'est greffé un problème qui n'était pas forcément prévu, c'est la guerre contre le terrorisme au Proche et au Moyen-Orient. Donc ça a nécessité une adaptation des États-Unis et de leurs forces armées. À l'issue de tout ça, on s'est retrouvé dans une nouvelle situation géopolitique, à savoir que on avait tellement cru que les Russes resteraient au fond des enfers dans lesquels on les avait plongés, on pensait plus les voir revenir sur la scène internationale comme ils l'ont fait à partir de 2007 et le discours de Vladimir Poutine à Munich, et qu'on s'est dit tout va bien, il n'y a pas de problème. Et puis d'un seul coup, les Russes ont repris du poil de la bête, et on s'est rendu compte que reprenant du poil de la bête, on était dans un problème qui allait être toujours centralisé autour de la Chine, mais avec la nécessité quand même de faire attention, d'être précautionneux sur l'espace européen immédiat, et puis aussi sur la forme de guerre, c'est-à-dire que avec ce qui se présentait en Ukraine à partir de 2014, on voyait bien que la légèreté en termes d'équipement, hein, de l'armée américaine, surtout de l'armée de terre, pour faire la guerre contre le terrorisme avec des brigades un peu comme celle de l'armée française projetées dans notre ancien espace colonial, on allait peut-être être obligé de retourner sur des gros bataillons avec des unités plus denses, retourner à l'échelon divisionnaire. Et tout ça, juste avant que démarre l'épisode de l'entrée en lice de l'armée russe en Ukraine, à partir de 2020, et le repli d'Afghanistan, on va voir les stratèges américains remettre en place une armée peu à peu, et des forces armées en général, mais l'armée de terre a beaucoup été impactée par ça, des armées qui vont être à dimension à nouveau très dense, très puissante, mais avec un gros problème, bah, c'est comment on fait tout ça en quelques années par rapport aux problématiques de la géopolitique mondiale qui, elles, n'attendent pas que les réformes soient abouties, que les changements de doctrine soient terminés et qui, là, avec la guerre contre l'Iran, obligent à prendre conscience des limites de cette puissance des réformes en cours.
Mais pendant les quasi 20 ans de guerre, première, deuxième guerre du Golfe, donc intervention en Irak, intervention en Afghanistan, on parle de 21 000 milliards de dépenses consacrées à ces deux interventions. Est-ce que la Chine était déjà au début des années 2000 perçue comme l'ennemi à venir, alors que l'essentiel des moyens militaires et puis peut-être de la réflexion était consacré à ces interventions au Proche-Orient? En d'autres termes, est-ce que, par rapport à ce que vous dites, la Chine s'est imposée ces cinq dernières années comme ennemi central, ou déjà elle était pressentie comme telle alors que tous les moyens militaires étaient plutôt distraits dans d'autres directions?
Alors c'est venu progressivement, c'est pas venu d'un coup, on s'est dit ça y est, c'est Pékin et personne d'autre. C'est au cours des années 2000, alors que la guerre contre le terrorisme avait déjà été engagée, on s'est rendu compte ce que les Chinois se sont ont fait une véritable percée en termes à la fois de moyens, de percées technologiques, etc., qu'on s'est dit, voilà, ils deviennent de facto de plus en plus menaçants, d'autant plus que les revendications légitimes, je le rappelle, de Pékin à l'égard de Taïwan se faisaient de plus en plus publiques, de plus en plus pressantes, hein, c'est-à-dire que le gouvernement chinois, ayant récupéré ses concessions de Hong Kong et Macao à la fin du XXe et début du XXIe siècle, on dit, bah voilà, maintenant il ne reste plus qu'une seule chose à régler, c'est le problème de Taïwan, et on se donnera les moyens de le faire, si nécessaire, par la force, en sachant que c'est pas l'option, je le rappelle, de Pékin de passer en force dans cette affaire, de redonner à l'époque le calendrier qui a toujours été fixé par le Parti communiste, c'est-à-dire que cette réunification soit terminée, j'insiste sur le mot terminée, en 2049 pour le 100e anniversaire de l'accession au pouvoir du PCC et de Mao Tse-tung en Chine. Donc les Américains se sont dit là, il va falloir qu'on fasse très attention parce que on a vu d'un seul coup les crédits d'armement, les types d'armement, les évolutions technologiques être de plus en plus importantes, les revendications politiques aussi. Et bien qu'engagés dans la guerre contre le terrorisme, ils ont commencé lentement mais sûrement à se dire bon, bah, il va falloir à un moment ou un autre que si la guerre contre le terrorisme s'éternise pas, on fasse de telle sorte à se préparer à cette éventualité par rapport à une défense, hein, puisqu'à chaque fois,
alors,
c'est l'idée
de
défendre Taïwan.
Je vous interromps parce que on a, Axel et moi, une interrogation sur cette question de la Chine. On a déjà consacré une émission il y a quelques mois. Est-ce que la Chine est objectivement menaçante pour les États-Unis ou, et c'est non pas le défaut de votre livre, mais à la fois on a le sentiment que la Chine représente une menace et en même temps, on y reviendra peut-être, vous nous expliquez que lié au complexe militaro-industriel américain, on a aussi de ce fait-là tout un lobby qui a intérêt à ce que soit désigné un ennemi avec une politique militaire en conséquence. Et là, je laisse la parole à Axel parce qu'il va préciser notre interrogation et puis notre question.
Oui, c'est effectivement l'interrogation qu'on a à la lecture de votre livre très intéressant, c'est de se demander si finalement la Chine n'est pas un peu volontairement surmédiatisée et on ne met pas un peu trop en avant le danger mis en représenté par la Chine, alors qu'en fait, il s'agit essentiellement d'un concurrent économique, ça c'est clairement vrai, mais on ne voit pas les Chinois débarquer sur la côte californienne, présenter une menace réelle pour les États-Unis, de même qu'on ne voit pas les Américains se déplacer, débarquer en Chine. Est-ce que finalement, on ne donne pas trop de crédit à cette menace chinoise, finalement, dans un objectif qui n'est pas le vrai?
Mais c'est clair, de toute façon, j'ai envie de dire, on ne change pas une recette qui gagne. Ça a été celle de la guerre froide. Donc voilà, on sait aujourd'hui en tant qu'historien que jamais l'Union soviétique n'aurait déclenché une guerre contre les forces de l'OTAN ou contre les États-Unis. Et on nous a fait peur pendant 70 ans en nous disant qu'il serait à Paris ou à Brest en 4 jours. Et résultat des courses, ça a permis au complexe militaro-industriel américain pendant 70 ans de pouvoir accumuler des bénéfices inimaginables, inespérés. Et d'ailleurs, la critique initiale portée contre ce complexe, elle ne vient pas d'un vulgaire gauchiste, elle vient du président Eisenhower lui-même, ancien commandant en chef des forces alliées en Europe. Voilà, donc on nous a fait… La seule fois, je le rappelle, où l'Union soviétique a douté de la possibilité d'enclencher un conflit contre l'OTAN, c'est en novembre 1983, à cause de l'opération Able Archer menée par l'OTAN sur le territoire de l'Allemagne de l'Ouest. Et c'est le seul moment où les Soviétiques ont été à deux doigts de mener une opération d'attaque préemptive. J'insiste bien, pas préventive, préemptive. Voilà, parce qu'ils ont été sauvés de prendre cette décision stupide grâce à un espion infiltré au quartier général de l'OTAN à Bruxelles qui s'appelait Topaz. Voilà, c'est le seul moment. Donc effectivement, on est en train, depuis 20 ans, aux États-Unis, de nous resservir cette mauvaise soupe pour servir les intérêts du complexe militaro-industriel, selon laquelle la Chine, demain, il y aurait des fusiliers marins chinois à San Diego ou ce genre de choses. Et puis, on nous vend aussi ça, je viens de le dire, à cause de Taïwan, les États-Unis trahissant finalement les engagements pris par le président Nixon, ne l'oublions pas, dans la foulée des conseils que lui avait prodigués avant de mourir le général de Gaulle, à savoir qu'il n'y a qu'une seule Chine et que sa capitale est à Pékin et que son gouvernement légitime est à Pékin. Donc voilà, tout ça effectivement ne repose que sur une manipulation politique, parce qu'il n'y a pas plus de danger que ça, que demain on se retrouve… Et d'autant plus, j'insiste aussi, qu'à Taïwan, vous avez des forces politiques et avec ce paradoxe magnifique qui sont agglutinées autour du Kuomintang, c'est-à-dire le parti fondé par Chiang Kai-shek, qui sont favorables à une réconciliation avec Pékin qui soit équitable et juste. Ça ne veut pas dire que l'île va sombrer dans le marxisme-léninisme version chinoise. Mais ce sont les forces les plus anciennement antagonistes du Parti communiste chinois qui sont à la manœuvre à Taïwan pour essayer de trouver un rapprochement diplomatique avec Pékin.
Oui, mais parce la question nationale l'emporte sur les considérations politiques, ou même idéologiques. Mais
tout à fait.
Je vous trouve peut-être, non pas excessif, mais on y reviendra à propos de la question du poids du complexe militaro-industriel, mais certains autres analystes considèrent qu'il y a une espèce de mécanique de l'histoire qui fait que on revient à Thucydide, mais voilà, c'est l'idée quand même que quand un empire, ou en tout cas une force importante, voit sa domination s'éroder, eh bien… mécaniquement, une autre prend la place et qu'on est à ce moment de l'histoire où cette longue paix américaine étendue au monde est en train de s'affaiblir et que, indépendamment du lobby que vous évoquiez et dont on ne peut pas occulter la puissance, bien, il y a une espèce de fatalité de l'histoire qui confronte un empire diminuant, déclinant à un empire qui s'affirme. Le problème, c'est que la Chine se considère comme un empire du milieu et que, historiquement, on ne voit pas qu'elle ait été caractérisée par un grand impérialisme. Alors ça peut être un autre débat, mais toujours est-il que, quelle que soit l'analyse qu'on fait sur cet affrontement sino-américain, et on en revient à la question des forces armées des États-Unis et de leur doctrine, vous écrivez, alors c'est très précis, et je vous demanderai pour nos auditeurs d'être le plus pédagogique possible, c'est que la doctrine d'emploi des armées américaines, avec tout ce que ça suppose ensuite de modifications en matière d'équipement, est en train d'évoluer, et vous évoquez, alors à Radio Courtoisie, on peut pas, il faut être prudent avec l'emploi des termes anglo-saxons, c'est le développement de ce que vous appelez la doctrine A2AD, c'est-à-dire anti-access area denial, c'est-à-dire empêcher les accès d'un État ou d'une puissance à des zones géographiques importantes, qui se traduit ensuite par des doctrines très précises en matière d'intégration des armées, de synergie interarmées. En d'autres termes, si je regarde la carte qui est devant moi, mer de Chine méridionale, mer de Chine orientale, les Chinois considèrent que c'est chez eux, et peut-être que du côté américain, on considère qu'ils y ont droit d'y accéder. Et si on étend l'analyse à l'ensemble de la planète, les Américains, dites-vous, écrivez-vous, sont en train de mettre en place doctrines et moyens permettant à cet empire de pouvoir accéder où ils veulent, quand ils veulent et comme ils veulent à l'ensemble de ces régions ou de ces zones dans lesquelles ils ont des intérêts. Voilà. Alors, pour nos auditeurs, je crois que c'est important de développer de façon pédagogique cette conception stratégique du monde par les Américains.
Cette stratégie globale réticulaire, puisqu'il faut la baptiser ainsi.
Oui, alors j'étais un peu intrigué par le terme réticulaire. Qu'est-ce que vous voulez dire par réticulaire ?
En fait, les Américains opèrent comme l'Empire britannique, hein, c'est-à-dire, enfin, au départ, c'est une réticulation du monde par le contrôle des points les plus stratégiques et pas simplement en se lançant dans une colonisation de l'Interland. C'est pas utile. Le but, c'est de contrôler les points d'accès les plus importants. Donc, la stratégie américaine là-dessus, avec la volonté de laisser justement le libre accès à tous les points importants du globe. En termes de circulation maritime, eh bien, ça leur permet de revendiquer l'idée qu'en mer de Chine méridionale, par exemple, c'est à eux de faire la police et de dire à qui appartiennent telle ou telle île, notamment les Spratly, qui a le droit de circuler avec tel ou tel type de navire, etc., etc. Et donc aujourd'hui, alors ça c'est la stratégie initiale des États-Unis. Aujourd'hui, ils se sont rendus compte avec les moyens qui étaient les leurs et qui étaient en diminution et l'augmentation des moyens chinois, bah, qu'il allait falloir faire deux choses, c'est être plutôt dans la limitation d'accès plutôt que le déni d'accès. C'est-à-dire que le déni d'accès, ça veut dire en gros vous passerez jamais, vous passerez pas du tout. Et là, ça va être plutôt dans l'idée qu'on va limiter les accès. En plus de ça, par rapport à la baisse des moyens, alors c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez une augmentation perpétuelle du coût, enfin du budget militaire américain, mais vous avez une baisse des moyens à mettre en œuvre ces choses-là. Il faudra revenir à la façon dont fonctionne le complexe militaro-industriel. Et en plus, aujourd'hui, cette stratégie, elle sous-tend l'emploi des forces alliées. C'est-à-dire que notamment là, dans cette zone, il y a des gens, il y a quelques temps, il y avait des manœuvres là-bas avec notre porte-avions Charles de Gaulle. Ils me disaient, mais qu'est-ce que le Charles de Gaulle fout là-bas ? Ben, il est là-bas tout simplement parce que les Américains, puisque c'est eux les patrons, ont sifflé les vassaux, leur ont dit, vous amenez vos moyens navals là-bas avec nous, parce que nous n'avons plus les moyens d'avant, et on vient de le voir avec ce qui est arrivé au Gerald Ford. Nous n'avons plus les moyens d'avant de déployer en gros 6 ou 7 porte-avions simultanément à la mer, et donc on est obligé de compter sur vous. Et donc dans cette zone, grande ironie de l'histoire, quel est l'allié naval, un des alliés navals principaux des Américains en mer de Chine méridionale?
Alors évidemment, on voit le Vietnam d'un côté, et voilà, Philippines voilà. De l'autre, qui encadrent à l'ouest et à l'est cette mer de Chine méridionale. Donc voilà, on comprend qu'effectivement, l'ennemi d'autrefois devient l'allié d'aujourd'hui, voilà, c'est-à-dire le Vietnam vis-à-vis des États-Unis, dans le cadre de cette confrontation.
Symboliquement, essayons de nous rendre compte, même si on était bien plus jeune, en tout cas en ce qui me concerne, en 1975, imaginez qu'aujourd'hui, vous avez des navires de guerre américains qui sont au mouillage dans la baie de Da Nang. Enfin, faut se rendre compte du symbole par rapport à ce qui s'est passé il y a 51 ans au Vietnam. Hein, voilà. Et puis sur la façon dont le Parti communiste vietnamien gère lui aussi de manière très pragmatique son problème idéologique par rapport à ses nécessités géopolitiques immédiates. Donc on s'appuie aussi sur des alliés qui peuvent paraître parfois très éloignés idéologiquement. Ça veut dire bien sûr dans l'autre partie de la région vers le nord, s'appuyer sur la Corée du Sud, s'appuyer sur le Japon avec toutes les problématiques aujourd'hui dont on vient encore de reparler de que peuvent faire les forces armées japonaises dans cette zone. On a eu du coup aussi là des retours de l'histoire où on a la première ministre japonaise qui a le culot de venir dire qu'elle est prête à défendre la souveraineté de Taïwan. Non mais c'est fou, hein, c'est fou. Quand on sait ce que le Japon a fait sur l'île de Taïwan en termes de massacre de populations indigènes, c'est absolument phénoménal. Donc les États-Unis sont obligés aujourd'hui d'être dans ce qu'ils appellent la limitation d'accès et non plus le refus faute d'avoir des moyens suffisants pour pouvoir le mettre en œuvre. Mais ça reste quand même quelque chose qui est chevillé au corps. Et j'ajoute un dernier élément dont je n'ai pas fait de développement dans mon livre, c'est qu'aujourd'hui, je crois que ça fait 3 ou 4 ans, les États-Unis sont revenus avec un concept maritime, de guerre maritime tout à fait ancien, hein, par rapport au défaut de leurs moyens, c'est de peut-être remettre en avant les lettres de marque pour faire des actes de corsaire. Je ne sais pas si on se rend compte, hein. C'est-à-dire que les corsaires, on en avait encore pendant la Première Guerre mondiale, la Kaiserliche Marine allemande utilisait des corsaires pour attaquer des navires alliés dans l'Atlantique Sud. Eh bien, les États-Unis se posent aujourd'hui la question de recourir de nouveau à des corsaires pour en fait contrer les flottes de marins civils que la marine chinoise utilise, notamment en mer de Chine méridionale.
Alors nous ne pouvons pas conclure cette première partie de façon absolue sur la réalité de la menace chinoise. Toujours est-il qu'elle a un impact fort sur les évolutions de la pensée militaire américaine. Et simplement, je voudrais, et je laisse la parole à Axel, vous demander, parce que une politique de défense suppose du temps, de la durée, vous dites que grosso modo, on ne peut pas envisager, et c'est peut-être une difficulté de votre livre, de conflits majeurs à haute intensité avec la Chine avant 10 ans. Alors est-ce que c'est les Américains qui envisagent finalement une paix de 10 ans, ou en tout cas une espèce de trêve de 10 ans, ou est-ce que c'est du côté chinois, ou est-ce que c'est du côté du lobby militaro-industriel qui n'a pas encore les moyens de fournir ce que les armées américaines auraient, dont elles auraient besoin.
Oui, pour compléter ce que dit Philippe, la question repose sur... Alors, je sais bien que votre livre traite de l'armée américaine, donc on ne peut pas traiter de tous les sujets, mais est-ce qu'on arrive à voir, ou est-ce que les Américains ont une vision suffisamment réaliste de l'état des forces armées chinoises, et est-ce qu'ils sont capables d'apprécier leur capacité? Parce que il faut reconnaître que ce qu'on envoie à l'extérieur n'est pas très manifeste concernant les capacités chinoises. Sur quoi repose votre affirmation disant, évoquant les progrès quantitatifs et qualitatifs engrangés par les forces armées chinoises?
Alors, ce qui se passe, c'est que les Chinois ont lancé des réformes aussi, donc je l'ai dit tout à l'heure, très importantes. Maintenant, on en est bientôt à 3 porte-avions, hein, ou porte-aéronefs. Ils ont des capacités en termes de technologie, que ce soit sur l'IA, sur les drones, tout ce qui est le tout nouveau, pourrait-on dire, dans l'art de la guerre, où on voit bien qu'ils sont largement même en avance par rapport à ce que peuvent proposer aujourd'hui les Américains. Je rappelle, puisque nous, on a eu des débats ici sur est-ce qu'il faudrait remettre le service national ou pas. L'armée chinoise est une armée qui s'appuie encore sur la conscription. Tous les ans, on est sur une classe à peu près d'un million d'individus. Hein, je ne sais pas si on se rend compte des proportions que ça représente, et qu'on ne prend que les meilleurs. Parce que, à l'inverse de chez nous, c'est un service universel, enfin, au départ, où tout le monde devait aller, et puis que ça servait de terreau pour constituer un socle national cohérent. En Chine, l'objectif, c'est de prendre les meilleurs individus à l'issue de ce qu'on faisait nous pendant nos 3 jours, parce qu'ensuite, ce sont des gens qui, quand ils retournent à la vie civile, vont devenir l'élite de la structure du Parti communiste chinois, ou en tout cas de l'administration du pays. Donc déjà, là, on sait qu'on a quantitativement et qualitativement des gens qui ont un niveau de formation. J'en parle dans mon livre. Si on compare aux recrues américaines qui souffrent, ne serait-ce que sur le plan de la santé, de problèmes physiques à cause de
le surpoids,
la malbouffe,
par exemple.
Voilà, du surpoids, de la malbouffe et compagnie, on voit tout de suite la différence. Hein. Puis alors, je ne parle même pas pour nous ici où il n'y a plus de services de conscription. Et ensuite, quand je parle des 10 ans, c'est les 10 ans qu'il faut pour que les réformes que les Américains ont démarrées soient achevées, en imaginant que ces réformes ne seront pas contrées. Et j'ai écrit mon livre avant que se déclenche ce qui se passe là depuis 3 semaines. En espérant que rien sur le plan des réformes ne soit bloqué par le Congrès. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans la géopolitique ? Ben, on voit le succès du temps long. Hein, tous les gens comme moi qui ont une petite fibre monarchiste sont très heureux. Vladimir Poutine, il lui a fallu plus de 20 ans pour redresser la Russie. Xi Jinping et ses prédécesseurs, ça fait des années qu'ils sont là. Ils n'ont pas à attendre de savoir si les combines auxquelles on vient encore d'assister, nous, aux municipales, vont permettre de ceci, de cela. Non.
Attendez, Sylvain, j'ai compris que vous aviez une fibre monarchiste, mais vous savez, il y a des pays, je regardais la Grande-Bretagne, et l'état de la flotte, de la Navy, et puis plus généralement des armées britanniques. On est dans un pays avec monarchie, mais l'état des forces a subi aussi le rythme électoral.
Non, quand
donc
je
voilà,
parle
je
de monarchie...
tempérais. Voilà, oui, vous imaginez Colbert, la forêt de Troncée et les années qu'il faut pour développer une flotte.
Voilà, c'est de ça dont je parle. Oui. C'est pas de ce qui se passe avec les gens qui sont des monarques de symbolisme
voilà,
et pas de grand chose.
Voilà, je vous laisse la responsabilité de vos propos, mais on comprend bien qu'il n'y a pas de politique de défense sans durée, et comme disait De Gaulle, il n'y a pas de politique de défense sans grand dessein politique plus généralement.
Voilà, voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les forces armées américaines ont décidé, on va dire autour des années 2020, début des années 2020, une restructuration qui est inédite dans l'histoire militaire de toutes leurs forces armées, c'est-à-dire de l'armée de terre, de la marine, de l'Air Force, et ils ont même ajouté la force spatiale à tout ça. On ne connaît aucun précédent d'un État qui décide, on a pu décider, voilà, par exemple, on va réformer l'armée de terre, et puis quand ce sera terminé, on s'occupera de la marine ou ce genre de choses, dans différents États, ça s'est déjà vu. Mais là, simultanément, on a eu cette prise de décision pour tout modifier d'un seul coup. Et l'horizon de tous ces changements a été évalué à environ une dizaine d'années, en espérant, j'insiste bien sûr là-dessus, sur le fait que le Congrès des États-Unis, soumis au lobby comme il l'est soumis aujourd'hui, ne va pas entraver telle ou telle réforme et ne va pas poser tel ou tel problème pour que ces réformes aboutissent. C'est pour ça que je dis, dans le meilleur des cas, il faut attendre 2034-2035 pour que les forces armées américaines soient remises à niveau par rapport à ce que les militaires américains ont demandé dans toutes les branches aux politiques de mettre en œuvre. Voilà. Donc, et pendant ce temps-là, les Chinois, avec la structure du Parti communiste, continueront, eux, d'avancer. Donc, ça va être très compliqué. Et donc, quand on est dans cette dimension-là, on ne se lance pas dans la guerre si on est quelqu'un de raisonnable. Ce qui pose, bien sûr, la question de savoir pourquoi, depuis le 28 février, ces gens-là se sont amusés, entre guillemets, à s'attaquer à l'Iran.
Donc, on peut imaginer que le haut commandement américain ne voit pas d'un œil très très favorable les interventions actuelles face à l'Iran, comme j'ai pu lire aussi que les interventions en Irak ou en Afghanistan, elles avaient été traitées directement entre les présidents de l'époque et les généraux qui commandaient le commandement central, en dehors de l'avis des chefs d'état-major qui, eux, avaient une autre vision de l'évolution de leur force. Donc, l'objet de notre émission n'est pas de traiter des diverses influences ou courants qui peuvent agiter le haut commandement américain, mais je trouve que c'est intéressant quand même de noter que entre les efforts planificateurs sur 10 ans et puis des interventions sur ordre présidentiel peuvent amener finalement ceux qui sont à l'origine responsables des armées à changer de fusil d'épaule. Donc on pourra poursuivre cette conversation dans une autre émission, mais là vous êtes dans ce moment où vous dites peut-être que ces opérations au Proche-Orient sont en train de menacer ou de fragiliser une réforme historique sans précédent.
Ah oui, c'est ce que j'avais. Alors, j'ai pu écrire mon livre après l'embargo décidé par Xi Jinping en avril l'année dernière sur 5 minerais rares qui sont indispensables à 79% des matériels de l'armée des forces armées américaines, donc 82% de ce qui sert à l'US Navy. Voilà. Donc depuis lors, qu'est-ce qui s'est passé vendredi? Qu'a décidé le premier secrétaire du Parti communiste chinois? L'embargo sur le tungstène. Ce qui fait que même aujourd'hui, on a la grande entreprise européenne Rheinmetall qui dit nous, on ne pourra pas honorer nos commandes à partir de maintenant, faute de tungstène. Donc les gens qui ont décidé de s'engager au milieu de ces grandes réformes, avec ces poids déjà d'embargo chinois sur certaines matières premières, ce sont des aventuriers, ce ne sont pas des politiques raisonnables, intelligents et sereins qui se sont lancés dans une telle aventure. Parce que qu'est-ce qu'on a comme résultat immédiat? Je le rappelle, l'embargo chinois sur les 5 minerais rares date d'avril. En juin, on a la guerre des 12 jours, au cours de laquelle les missiles Arrows vont être, le stock de missiles Arrows américains au-dessus d'Israël va être consommé à 15%. Dans les semaines qui suivent, les instituts américains comme Govini nous disent, pour reconstituer ces 15%, il nous faudra, en l'état de nos stocks de minerais rares, 5 ans minimum. Aujourd'hui, le stock de missiles Arrows, il est complètement à plat pour ce qui concerne le CENTCOM. Il a fallu aller chercher ceux qui sont à Okinawa et en Corée du Sud pour redonner un petit peu d'épaisseur à la défense du ciel israélien.
Alors j'appelle l'attention de nos auditeurs sur cette question des minerais rares, des terres rares, où et Axel, je crois, est dans la même situation que moi, nous interroger en nous disant, mais quand même, il n'y a pas que les Chinois qui ont ces minerais rares. On lit dans la documentation générale qu'ils en auraient à peu près 37% du point de vue de la production sur leur territoire. Alors, ils doivent en maîtriser plus à travers les prises de participation dans un certain nombre de sociétés, notamment en Indonésie. Mais vous soulignez quand même dans votre livre qu'il y a un vrai paradoxe, c'est-à-dire que les Américains se mettent dans la tête que la Chine est l'ennemi majeur, mais que pourtant, quand on lit aussi dans votre livre que 78% de l'arsenal du département maintenant de la guerre et non plus de la défense est concerné par ces minéraux critiques, on voit bien qu'il y a un vrai problème. Si l'ennemi d'aujourd'hui ou surtout de demain détient l'essentiel de ce que je considère comme stratégique pour mes armements actuels ou futurs, il y a là un vrai problème. Et j'invite les auditeurs à regarder de près ce que vous dites. Il y a comme exemple sur le chasseur F-35, les détections infrarouges à longue portée dépendent de tel ou tel minerai. La protection longue distance, 400 jusqu'à 600 ou 800 km de telle ou telle frégate, et on pense à celles qui sont déployées en océan Indien ou qui protègent les groupes aéronavals américains, dépendent aussi de cet approvisionnement. Donc là, on voit que, comme disait un pape défunt, tout est lié. Hein, et que entre les terres rares, la maîtrise des procédures techniques et d'approvisionnement, et puis leur implémentation dans ce qui est décisif aujourd'hui pour perdre ou gagner une guerre, eh bien, tout cela apparaît dans votre livre de façon très claire. Alors, on a passé pas mal de temps pour cette
problématique.
Oui ?
Je voudrais préciser quelque chose. Effectivement, les Chinois ne sont pas les seuls à avoir les minerais bruts. Les Chinois maîtrisent 90% de leur raffinage. Et aujourd'hui, le gros problème, c'est d'avoir des entreprises de raffinage. Et j'ai découvert depuis que j'ai écrit mon livre que la seule entreprise potentielle de raffinage dans le continent nord-américain, sous pavillon américain, qui pourrait commencer à faire du raffinage, elle serait disponible au mieux printemps-été 2027 dans le Saskatchewan au Canada. Autant vous dire que tout ce qui est consommé aujourd'hui au sud du ciel israélien ou des pays du Golfe, c'est sans capacité de production avant au mieux l'été prochain, du côté américain.
Alors, nous allons maintenant, puisque nous avons vu le nouveau contexte géopolitique, l'ennemi tel que représenté, tel que se le représentent les Américains, les évolutions de doctrine, ben pour faire face à tout cela, il faut des moyens. Et la deuxième partie de notre émission va être consacrée à ces moyens, de façon suffisamment, là encore j'insiste, pédagogique pour que les gens aient des ordres de grandeur. Moi je me contenterai de rappeler que pour un budget fédéral d'environ 6 000 milliards de dollars, le budget de la défense pour 2026, selon les sources, il est entre 840 et 960 milliards de dollars, selon ce que l'on met comme agrégat, sans compter, je crois que c'est important pour nos auditeurs, les 300 milliards de dollars que le département des vétérans consacre bien au bien-être, à la santé des vétérans. Donc on voit aussi que toute guerre engrange pour l'avenir un certain nombre de dépenses incompressibles et que quand on parle de l'effort militaire américain de façon générale, il faut jamais oublier que les 20 ans de guerre ont entraîné beaucoup de problèmes de santé physique ou psychologique et que les vétérans représentent 6% de la population américaine avec donc des enjeux budgétaires considérables. Alors, avant de parler technique un petit peu, je vais rappeler simplement que l'armée américaine pour 2026, c'est un budget de 176 milliards de dollars. La Navy, c'est 235. Les Marines, c'est 57 milliards. Que l'armée de l'air, c'en est pas loin de 200 milliards. Les forces spatiales, 40 milliards. Et que même les opérations spéciales, qui ont un budget à part, dépensent près de 15 milliards de dollars. Donc voilà, c'est quand même des ordres de grandeur qui vont nous fixer ensuite les moyens que, notamment du point de vue des acquisitions, les armées américaines peuvent disposer aujourd'hui et surtout dans l'avenir. Alors voilà, rapidement, mon cher Sylvain, quels sont les moyens dont les armées, en fait, ce qui va intéresser nos auditeurs, veulent disposer dans cet espace de 10 ans devrait nous éloigner, enfin, nous devrait être nous séparer d'un grand conflit majeur.
Oui, juste un tout petit détail de vocabulaire pour nos auditeurs. Quand on parle de US Army, Army, c'est pas les armées comme en France, mais c'est l'armée de terre uniquement.
Oui.
Alors voilà, pour faire face, de quoi ont-elles besoin? Qu'est-ce qui est en train de se passer?
Sur l'ensemble des forces armées, aujourd'hui, on a une espèce de point commun, c'est que va-t-on faire de l'intelligence artificielle? Parce que ça, c'est venu s'ajouter à tout ce qui s'est passé par rapport au moment où les réformes ont été entreprises. C'est-à-dire que vous avez des réformes qui sont entreprises et vous avez deux facteurs qui sont venus déjà de l'extérieur les modifier. L'apparition de l'intelligence artificielle et son rôle de plus en plus déterminant, avec en plus un gros problème entre l'intelligence artificielle elle-même et les acteurs de l'intelligence artificielle, et en particulier nos meilleurs amis, entre guillemets, de Palantir, auxquels notre gouvernement vient de laisser tout ce qui concerne notre renseignement extérieur.
Deux mots sur Palantir, parce que tout le monde ne sait pas de quoi il s'agit.
Alors Palantir, c'est une des entreprises de la high-tech américaine qui est spécialisée dans tout ce qui est donc nouvelle technologie, en particulier l'intelligence artificielle, mais pas que, et qui sert au gouvernement américain pour asseoir ses réseaux ou ce genre de choses. Alors Palantir, hein, ça vient de Tolkien. Hein, j'invite là, je vais pas rentrer dans une analyse du Seigneur des Anneaux, mais je vous invite à aller regarder. Le Palantir, c'est un objet dans le Seigneur des Anneaux qui permet à des magiciens de tout voir, de tout savoir à distance.
C'est la fameuse transparence du champ de bataille.
Voilà, c'est ça. Et donc là, nous, les Français, ben, vu que notre souveraineté ne nous intéresse plus, notre gouvernement a reconduit le partenariat avec Palantir pour la DGSE notamment. Ce qui fait que Palantir, ben, comme tous les logiciels américains, c'est eux qui ont le dernier mot. Donc, ils pourront savoir exactement ce que seront nos camarades à la piscine au niveau de nos services de renseignement. Donc, c'est magnifique. Hein. On aurait dû carrément leur donner la clé, ça aurait été beaucoup plus simple. Donc, vous avez l'IA, et puis vous avez un autre élément qui est apparu, parce que c'était… Alors, les Américains ont bien évidemment depuis longtemps des drones, notamment les drones Reaper, on en parle ces derniers jours, de manière très importante, parce qu'il y en a beaucoup qui tombent. Mais là, c'est les drones FPV, qui avec la guerre en Ukraine, au niveau de leur emploi, sont en train de créer une révolution sur le champ de bataille. Donc, les forces armées américaines en pleine restructuration se voient ajouter deux couches à prendre en compte, l'intelligence artificielle et son emploi, pour automatiser certaines choses. Parce que le but de l'intelligence artificielle sur le champ de bataille, c'est d'automatiser des décisions. Hein, et là, on va encore parler science-fiction ou littérature, c'est Terminator avec Skynet. Hein. C'est-à-dire que la machine va décider à votre place de tirer ou de ne pas tirer sur une cible.
Hein, oui, alors justement, problème récent, signalé dans la presse entre l'entreprise Anthropic et le Pentagone à propos d'un contrat de 200 millions de dollars en 2025, c'est qu'avec un logiciel qui s'appelle le logiciel Claude, il s'agit d'aider à analyser ben, le renseignement, la simulation, planifier et surtout identifier des cibles. Et il y a deux contraintes qui ont été mises par cette société. Pas de lien entre l'IA et des armes autonomes et pas de lien avec la surveillance de masse de la population. Alors surtout, le premier point m'a beaucoup intéressé, c'est qu'il y avait une dimension éthique dans cette entreprise qui refusait finalement l'emploi d'armement létaux lié à l'intelligence artificielle sans intervention donc de l'homme. Donc voilà les Américains confrontés non seulement à des questions opérationnelles, mais aussi des questions éthiques.
Ah bien sûr, mais moi je suis un pessimiste et je pense que si des gens heureusement posent ces limites aujourd'hui, on verra très bien dans l'application qu'elles ne seront pas maintenues. Donc là-dessus malheureusement je suis pas du tout. Je remarque avec plaisir que des gens se penchent là-dessus et disent non, on va pas faire telle ou telle chose, mais je pense que malheureusement, comme tout usage d'armes, à un moment ou un autre, le cap de l'intérêt éthique et moral est toujours franchi et on va dans le pire en pire.
Alors je vous interromps deux secondes pour, vous savez, à Radio Courtoisie, on a traditionnellement un petit bobino, on a dépassé 3 minutes, et donc nous allons l'écouter avec attention.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Chers amis, vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie et du Libre Journal de la Défense et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Sylvain Ferreira, auteur d'un ouvrage, La fin de la domination américaine, point d'interrogation. Et donc, nous entretenons d'un point de situation sur l'état de ces armées. Nous en étions à ce moment de l'émission où nous évoquions des bouleversements de doctrine, des bouleversements dans les équipements. Et Sylvain Ferreira traitait, juste avant le bobino, de cette implémentation de l'intelligence artificielle dans les organisations et dans les matériels. Alors, vous nous disiez que les armées, depuis 5 ans ou 6 ans, ces armées américaines étaient en pleine réflexion et restructuration. Et puis, elles sont impactées par l'intelligence artificielle et puis par l'arrivée des drones en quantité, notamment sur le champ de bataille ukrainien. Mais avant que l'IA et les drones ne posent des interrogations, j'allais dire existentielles, quelles étaient ces grandes réflexions qui traversaient les états-majors de ces armées américaines ? Un tout petit retour en arrière.
En ce qui concerne l'armée de terre, la grande réflexion, c'est le retour à l'échelon divisionnaire. C'est-à-dire que pendant plus de 25 ans, on a préféré l'échelon de la brigade interarmes, hein, la Brigade Combat Team en anglais, qui est d'ailleurs un hommage à nos capacités, à nous, Français, par rapport au déploiement dans notre ancien empire colonial africain. Hein. C'est un peu le même
alors,
modèle.
Alors, pour parler, pour être court, je comprends qu'en fait, 20 ans de guerre dans le Proche-Orient avait rapproché un peu, les analogies valent ce qu'elles veulent, du point de vue de l'organisation, l'armée de terre américaine avec l'armée française, c'est-à-dire des petites structures plutôt légères, et que, ayant classé les affaires afghanes et irakiennes, on repensait à un modèle d'armée de terre plus lourd, même si on diminuait un peu les effectifs, mais on pensait à une nouvelle organisation, adaptée à un conflit à haute intensité.
C'est ça, parce qu'on s'est rendu compte que dans la guerre, même dans la guerre contre le terrorisme, puisqu'on a eu des points paroxystiques avec, par exemple, la bataille de Mossoul en Irak, c'est que l'état-major de la brigade n'était pas assez lourd, hein, ou suffisant, je ne sais pas quel bon adjectif, pour gérer ce type de bataille. Hein, c'est-à-dire qu'il fallait là aller chercher, même pour Mossoul, on a été chercher des états-majors de niveau de corps d'armée pour pouvoir organiser toute la bataille avec plus de 60 000 combattants, etc., les forces terrestres, en plus tout le côté international qu'avait cette force à l'époque. Donc les Américains se sont dit, il faut qu'on retrouve l'échelon de commandement initial, et là encore, hommage à la France, hommage à l'empereur, qui est la division, hein, et donc sans forcément augmenter le nombre de combattants qu'on va gérer, on veut plus d'officiers d'état-major, on veut plus de redondance dans la chaîne de commandement pour pouvoir faciliter en temps réel, hein, si possible, la prise de décision et son efficacité. Donc ça, c'est la grande réforme de l'US Army qui est encore en cours, hein. Elle est censée s'achever à l'horizon 2030, c'est de repartir sur un échelon de division. Et à côté, le grand problème, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, c'est d'avoir assez de recrues en bonne santé pour pouvoir des combattants.
On y reviendra de façon peut-être plus synthétique en évoquant les questions de recrutement et de fidélisation qui concernent ces armées. Le temps passant, je suis obligé maintenant d'évoquer la marine, dont je disais que c'est elle qui a le premier budget au sein des armées américaines, 235 milliards de dollars pour l'année 2026. Alors, quels sont les grands problèmes de la marine américaine ?
Alors, elle a deux grands problèmes, c'est qu'elle doit simultanément changer ses porte-avions et changer ses sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Ils sont tous vieillissants. Hein, et les classes Ohio sont presque arrivées au bout de leur vie. Et quant aux porte-avions, ben on est sur l'idée qu'on ait remplacé tout ce qui était classe Nimitz et suivante par la classe Gerald Ford. Alors quand on voit ce qui vient d'arriver au Gerald Ford ces derniers mois, hein, je rappelle que depuis hier, on
gros incendie à bord.
Oh oui, puis toilettes bouchées, etc. Hein, on nous parle de 14 mois, là, aujourd'hui, de mise au radeau du plus grand porte-avions du monde. Hein, c'est quand même quelque chose de phénoménal. Donc, quand vous devez changer simultanément ou accélérer le changement de vos porte-avions, de vos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, que vous devez repenser le problème de la frégate parce que vous êtes complètement planté avec l'autre grand scandale dont nous, Européens, on n'a quasiment pas entendu parler, qu'est le Zumwalt, hein, puisque tout le monde a entendu parler du gouffre Afrique qu'a été le F-35, eh bien, on n'a jamais entendu parler, nous, en Europe, dans le grand public, j'entends, du gouffre à pognon qu'a été le Zumwalt, hein, qui devait être un navire furtif dernière génération, etc., qui a été lui aussi avec des raccords budgétaires presque infinis. et qui, au lieu d'avoir 15 unités à la mer, n'en a plus que 3, qui sont en train d'être d'ailleurs modifiées pour accueillir des missiles hypersoniques. Les tests ont commencé il y a quelques mois, je crois en novembre, si ma mémoire est bonne. Et donc, les 12 autres unités ne seront jamais construites. Néanmoins, il y a eu des budgets qui ont été votés. Enfin, c'est de la gabegie, mais à un niveau qu'on ne peut pas imaginer, puisque justement, on parle de centaines de milliards de dollars. Donc voilà, aujourd'hui, l'attente des amiraux, c'est d'avoir les nouveaux porte-avions qui soient massivement entrés en service, les nouveaux sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, et puis des nouvelles frégates qui soient capables d'œuvrer pour assurer la protection de ces nouveaux porte-avions en mer. Et donc, tout ça, pour que ça aboutisse, la marine a dit, voilà, 2030, 2035, on serait heureux si tout ça ne voyait pas de nouveaux problèmes s'ajouter, à commencer par ceux que le porte-avions Gérald Ford vient de rencontrer.
Alors, cela dit, la marine américaine reste aujourd'hui la première du monde.
Oui, alors ça, c'est sur le papier, parce que, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, vous avez combien de... Alors, on va dire que le Gérald Ford, il lui est pas arrivé ce qui lui est arrivé. Vous avez 3 porte-avions américains qui sont opérationnels et vous avez les autres qui sont tous soit en radou, soit en escale technique ou ce genre de choses. Donc, on n'est plus du tout sur les standards de la guerre froide. Voilà, donc on voit aussi là les limites et c'est aussi ça qui permet de comprendre le document de National Security Strategy de Donald Trump au mois de novembre dernier. C'est qu'il faut se replier sur l'hémisphère occidental américain, assurer cette réticulation en employant de plus en plus l'aide des alliés sur les mers du monde, en les impliquant de plus en plus, parce que on n'a plus les moyens qu'on avait en 1985.
Alors, on passe de la marine aux Marines, 57 milliards de dollars de budget pour 2026. Là encore, une armée qui est en proie à de profondes réflexions, un renouvellement de sa doctrine et puis des perspectives de moyens extrêmement nouveaux. Or, on est là avec l'épine dorsale de la... Enfin, en tout cas, ce qui symbolise peut-être le plus pour les étrangers la puissance américaine, c'est le corps des Marines.
Ah bah oui, la réticulation du monde se fait par la marine et la marine étend son pouvoir sur la Terre via le corps des Marines. C'est comme ça que ça s'articule. Et ce, depuis les premières heures de l'existence du corps des Marines il y a 250 ans.
Donc les grands enjeux de ce corps emblématique, en quelques mots, quels sont-ils ?
On a voulu l'alléger. Alors là, c'est un peu bizarre par rapport à l'armée de terre. Le corps des Marines, depuis la Seconde Guerre mondiale, il était doté en chars, qui n'avait pas l'objectif de mener des opérations terrestres comme l'armée rouge, mais qui avait pour objectif de détruire notamment les défenses japonaises sur les atolls du Pacifique. Il était doté d'artillerie lourde, etc. Et là, on a dit, on a changé de dimension. On ne va plus aller faire la police avec les Marines un peu partout sur le globe, on va se focaliser sur l'espace Pacifique. Et là, l'idée, ça va être de déployer le corps sur des bases avancées, capables de tirer des missiles longue portée contre les forces chinoises à la mer ou sur terre, et de se replier très rapidement avant d'essuyer une riposte massive de la part des forces chinoises. Donc, plus besoin des chars, plus besoin de l'artillerie lourde, beaucoup de drones, beaucoup de missiles, et puis c'est tout. Sauf que, on l'a vu encore avec la problématique qui s'est posée au Venezuela, et s'il avait fallu débarquer à Caracas, si vous n'avez pas de moyens lourds pour assurer un débarquement, ça pose des problèmes face à des gens qui, eux, vont conserver des moyens comme de l'artillerie lourde ou ce genre de choses que vous n'êtes pas forcément garanti de neutraliser. Aujourd'hui se repose la question, et si on veut débarquer sur l'île de Karg ou l'île plutôt de Kemch à l'entrée ou à la sortie du golfe Persique en fonction de l'angle d'attaque du golfe, est-ce que ces moyens sont suffisants ? Il y a plein d'anciens chefs du corps, et notamment le plus emblématique d'entre eux, qui est Van Ripper, qui disent que tout ça va mener à des désastres. Voilà, parce que c'est où le corps des Marines ne se pense que par rapport à la problématique chinoise, où il reste quand même ce bras de projection de la puissance réticulaire qu'assure l'US Navy. Et donc, il y a eu des débats homériques et parfois pas très cordiaux entre l'actuel chef Berger, qui a été à l'initiative de cette réforme, et puis ses prédécesseurs, et notamment Van Ripper, ont été, mais enfin, je veux dire, si dans nos armées françaises on avait des débats intellectuels de ce niveau-là au sujet des réformes qu'on entreprend, ce serait salutaire, parce que là, ça volait quand même assez haut pour essayer chacun de défendre son approche. Mais aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a plein de questions qui se posent sur ce qu'on nous raconte sur l'île de Karg, moi, je ne sais pas comment les Marines pourront faire si les Iraniens résistent très fort face à leurs unités aujourd'hui.
Mais ces Marines sont… Enfin, les perspectives que vous évoquez, c'est une spécialisation accrue. Le Marines reste un combattant, mais ce n'est plus le combattant classique ou traditionnel qu'on a pu se représenter. Et d'ailleurs, c'était un des éléments du débat entre les généraux du corps des Marines en disant le Marines, c'est d'abord un combattant. Et puis d'autres répondent, non, maintenant, on se spécialise. Alors, évidemment, comme pour l'armée de l'air, c'est la question du recrutement, comment on recrute des spécialistes aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ils ne seraient plus en état d'être et de durer en tenant les points clés du golfe d'Ormuz.
Je pense que vu la force qu'on a complètement minorée de l'armée iranienne, je rappelle la dernière fois que les Américains ont lancé le Marines contre une île, c'était celle de la Grenade. Ça s'est assez bien passé parce qu'il y avait très peu de résistance en face d'eux.
C'était les débuts de l'ère du président Reagan.
Voilà, c'est ça. C'était en 84 ou quelque chose comme ça, ou 83. Il y avait quelques Cubains face à eux qui n'étaient pas très bien armés. Puis voilà, ça s'est assez rapidement passé. Mais je rappelle que le précédent exemple de l'attaque contre une île, c'est à Koh Tan en 1975, juste après la chute de Saïgon contre les Khmers Rouges. Et déjà là, à l'époque, alors qu'ils avaient les moyens du corps des Marines de la guerre froide, ils ont essuyé un échec assez sévère. Donc là, face à l'armée iranienne, dans les circonstances dans lesquelles on est, où je le rappelle, les drones en nombre, les drones FPV en nombre, c'est du côté iranien que vous allez les trouver, parce que l'US Army n'en a doté qu'une seule unité constituée juste avant que démarrent les hostilités en novembre dernier au niveau du CENTCOM, avec seulement 300 exemplaires de ce qu'ils appellent les Lucas, les low-cost drones, qui sont donc des copies du Shahid iranien. Mais aujourd'hui, on sait que c'est les Iraniens qui ont les moyens d'inonder le champ de bataille de drones, et c'est certainement pas les Marines qui pourront le faire. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui pensent aussi que, je sais que le colonel McGregor en parle aussi dans ces termes-là, même si c'est pas un ancien des Marines, sur les limites des capacités du corps aujourd'hui à faire ce qu'il a toujours fait depuis sa création.
Alors maintenant, on va terminer avec cette espèce de présentation, ce catalogue des forces américaines avec l'armée de l'air, dont je dois dire que j'ai été surpris à la lecture de votre livre de voir la situation difficile dans laquelle elle est du point de vue du vieillissement, du recrutement, des difficultés de recrutement liées pour une part à l'emploi pendant 20 ans de façon impressionnante des moyens aériens et puis on en reparlera un petit peu en finale, mais de la question des coûts budgétaires des appareils et puis les réflexions aussi doctrinales sur le partage entre avions pilotés, non pilotés. Alors là aussi, en quelques mots, point de situation, Sylvain Ferreira, sur l'armée de l'air américaine.
L'armée de l'air américaine, peut-être plus encore, bien sûr, que la marine avec le problème du Zumwalt, elle a été victime du F-35. C'est-à-dire que on a un programme d'armement pour un chasseur multirôle de cinquième génération qui est venu plomber tous les budgets parce qu'on nous a fait croire que ça allait être la merveille des merveilles. Alors, bien évidemment, il a des avancées technologiques qui sont indéniables, mais simplement, on a mis le doigt dans un engrenage économique qui a coulé quasiment tout le reste. Hein. C'est-à-dire que quasiment tous les budgets, toutes les hausses de budget qui ont été réclamées année après année par l'US Air Force ont été consacrées à ça, au détriment notamment, je pense, à quelque chose dont on parle peu, c'est-à-dire les avions qui servent à former les pilotes. Hein, moi, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, que nos pilotes autrefois étaient formés sur des anciens appareils Fuga Magister ou Alpha Jet. Là, les Américains, leur avion d'entraînement pour les pilotes au début de leur formation, il datait d'il y a plus de 40 ans. Et c'est seulement maintenant qu'on commence à se dire « Ah oui, tiens, il va être remplacé, les budgets sont enfin en place et ça va enfin se mettre en œuvre. » Donc, vous ne pouvez pas continuer de former des pilotes qui vont devoir piloter un avion de cinquième génération avec des avions de formation qui datent d'il y a plus de 40 ans. Ce n'est pas possible. Et donc, on est arrivé finalement au bout du grand problème qui est que font les gens du complexe militaro-industriel quand vous leur...
Alors, quand même, quelques chiffres, justement, pour évoquer le F-35. Vous dites que, alors, fin 2003, on en avait 420 en service dans l'Air Force, la Navy et les Marines. Un objectif de 700 d'ici 2030, mais il était quand même prévu 1760 sur la durée du programme.
Du
contrat. Et que on avait prévu d'en livrer 110 par an il y a 10 ans, mais qu'il n'y en aura par exemple que 25 livrés en 2026. Et donc l'objectif c'était d'en avoir 1200 capables d'agir sur deux conflits, mais que pour l'instant il paraît difficile que l'armée de l'air atteigne cet objectif, alors avec un coût phénoménal hein, de 485 milliards de dollars pour le programme. Donc je crois que ça c'est, alors ça, il y a cette question de coût du F-35, ces coûts de maintenance également, et puis vous nous dites aussi que à la fois le reste de la flotte a terriblement vieilli et que les nouveaux programmes sont fortement compromis et les questions de personnel se grèvent là-dessus.
Oui, c'est une catastrophe parce que, alors là, bon, il y a Donald Trump qui a fait tout un show l'année dernière en disant on va déjà préparer l'avion de sixième génération qui s'appellera le F-47 par rapport au 47e président des États-Unis. Et puis vous avez les pilotes. On les a, puisque la doctrine américaine, ça a été longtemps d'utiliser ce que les fantassins appellent les farces aériennes. Hein, je le rappelle, depuis la guerre du Vietnam, les fantassins sont très cruels. Dans l'armée américaine pour parler de leurs homologues dans les airs, d'utiliser la puissance de feu pour frapper au sol les objectifs de l'adversaire de manière des fois très indiscriminée entre civils et militaires. Et donc aujourd'hui, on a tiré sur la corde parce qu'on le sait, en Afghanistan, en Irak, etc., ils ont été surutilisés, surdéployés. À l'inverse de ce que font nos forces armées qui sont plus économiques de leur emploi. Et aujourd'hui, on recrute beaucoup moins de pilotes parce que les pilotes dans le civil sont mieux payés avec des carrières qui sont plus intéressantes.
Oui, puis l'organisation de leur emploi du temps est quand même meilleure dans une compagnie civile plutôt que dans l'armée de l'air où on est quand même soumis à des contraintes opérationnelles et des séjours de très longue durée hein, que vous évoquez.
Eh ben c'est à ça, l'extérieur. Parce que quand vous avez moins de pilotes, vous êtes obligé de les suremployer dans des missions, puisque on l'a dit au départ, on est là pour servir un empire réticulaire. Donc vous avez des types. Regardez là les pilotes qui sont à bord du Gerald Ford. Le Gerald Ford, ça fait combien de mois qu'il est à la mer? Alors j'espère qu'il y a eu quand même une petite rotation sur les escadrilles qui se relaient sur le pont, mais même ça, je pense que les types ont dû vivre au minimum entre 6 et 8 mois de déploiement à l'extérieur, sans escale aux États-Unis.
Oui, juste une remarque, parmi les difficultés que vous évoquez pour l'armée de l'air, vous avez celle du A-10. Le Warthog qui était emblématique de, et même les forces françaises qui avaient été déployées en Afghanistan le connaissaient bien puisqu'il lui arrivait d'intervenir à leur profit.
Ah bah oui, alors Alors là, je ne sais pas si vous avez eu l'opération de communication à laquelle on assiste depuis 10 jours à son sujet. Hein, c'est-à-dire que là, vu qu'il sert à abattre, semble-t-il, des drones, on nous dit, bah, regardez, on a bien fait de le garder. Hein, je trouve ça absolument remarquable. Les Américains sur la communication restent quand même assez bons. Alors que, bon, bah, c'est un appareil qui a été conçu pour opérer au-dessus du champ de bataille ouest européen pendant les années 80, avec effectivement des avantages à l'époque qui étaient très remarquables. Mais aujourd'hui, bon, bah, alors qu'est-ce qu'on fait? On les conserve, ça coûte de l'argent de les conserver. Il y a cet intérêt pour les hommes au sol de dire, ah, bah, quand on entend le brrr de son canon, on sait qu'on va être sauvé ou pas, hein, parce qu'il y a quand même eu des tirs fratricides dont on ne fait pas beaucoup de publicité. Les pilotes américains sont pas réputés pour être les types les plus précis. Hein, je rappelle hein, l'appellation au Vietnam les farces aériennes. Aujourd'hui, on essaye peut-être, avec ce qui se passe là depuis une semaine, de nous vendre qu'il faudrait encore les garder parce que personne n'a réfléchi à comment on allait le remplacer. Et alors maintenant qu'on a des drones FPV sur le champ de bataille, qu'on a des drones maintenant guidés par fibre optique qui peuvent opérer aussi de l'appui-feu d'une manière qu'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant, est-ce qu'il faut continuer d'investir dans des programmes pour des avions d'attaque au sol de ce niveau-là ou pas? Je n'ai pas la réponse à la question, parce que de l'autre côté, les homologues soviétiques du A-10 ont fait un travail, semble-t-il, assez remarquable depuis le début de l'intervention russe en Ukraine. Donc, mais aujourd'hui, est-ce que l'armée d'air américaine a les moyens de maintenir son parc de A-10 pendant encore 3 ou 4 ans? J'en doute fort par rapport aux nécessités de modernisation.
Alors, une observation ou question d'un fidèle auditeur. Alors, qui nous fait une remarque sur la stagnation de la physique depuis un siècle. En fait, l'observation, c'est de dire que la perte de puissance des États-Unis pourrait être la conséquence inéluctable du fait que les grands développements techniques issus des découvertes en matière de physique au début du siècle dernier, finalement, se sont répandus dans tous les pays et que maintenant, notre supériorité industrielle et technique, qui avait fait de l'Amérique l'usine du monde lors de la Seconde Guerre, est maintenant largement remise en cause et que il faut comprendre ces évolutions géopolitiques à l'aune de ces évolutions scientifiques et techniques. Et quelqu'un qui nous dit que c'est la même personne qui s'interroge sur l'attaque contre l'Iran, ne serait-elle pas la marque d'une panique face au déclassement militaire qui est en fait le seul soutien du dieu dollar? Alors, du dieu dollar, donc c'est une remarque un peu acerbe, mais qui m'amène à évoquer ce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais c'est la question quand même du complexe militaire ou industriel, parce que vous évoquiez Eisenhower avant qu'il ne passe sa charge au président Kennedy. Quand on lit d'autres ouvrages, on se demande si finalement on n'est pas dans un cercle vicieux d'une économie américaine qui dépend pour une part de ce complexe. Ce complexe entretient un certain nombre de groupes de réflexion, de fondations qui définissent, ou en tout cas qui contribuent à définir une stratégie, à définir un ennemi, et à partir de là, on développe des doctrines et des modes d'emploi et des concepts d'emploi et des équipements. Et est-ce que le président Trump, comme d'autres, n'est pas confronté à quelque chose qui, comme le golem, leur échappe?
Ben, c'est clair que quand en 1960, le président Eisenhower a mis en garde John Fitzgerald Kennedy sur le problème des libertés publiques par rapport au complexe militaro-industriel, il ne mentionnait finalement qu'une partie du problème. Parce que le vrai problème auquel on est finalement confronté aujourd'hui, c'est qu'on a affaire, et moi je ne vais pas mâcher mes mots, on a affaire à un système mafieux. Faut être clair. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont par exemple employés chez Northrop ou Boeing, qui travaillent là et qui se disent « Ah bah tiens, pour relancer l'entreprise, il faudrait qu'on ait un nouvel appareil. Quand il y a telle ou telle administration qui prend le pouvoir à Washington à l'occasion des présidentielles, ils vont rentrer dans l'administration au Pentagone, ils vont faire du lobbying au Pentagone pour dire « Ah bah oui, regardez, ce sera intéressant puisqu'il y a tel pays qui menace qu'on développe tel type d'appareil. Ah, on leur dit oui, c'est pas une mauvaise idée. Ils ont tout un tas de systèmes de groupes de pression ensuite qui vont œuvrer au Congrès auprès des élus américains pour leur dire bah, faudrait peut-être voter une loi ou faudrait peut-être modifier la loi budgétaire, etc. Quand l'administration présidentielle change, ces types retournent au conseil d'administration de l'entreprise initiale où ils refont, où ils cachetonnent, hein, comme on dit. Et donc, ça fait que durer. Et pendant ce temps-là, on ne crée plus du matériel en fonction d'une réalité, on crée du matériel pour faire tourner le système. Et c'est pour ça qu'on a des matériels qui ne sont pas forcément adéquats par rapport aux difficultés de la guerre nouvelle.
Alors vous hein, dites aussi qu'à ces cinq, si mes souvenirs sont bons, hein, ces cinq grands du complexe militaro-industriel, dont les chiffres d'affaires sont entre quoi, 70 et 50 milliards de dollars par an, quelque chose comme ça.
Oui, c'est astronomique.
On s'ajoute maintenant, pour les raisons qu'on évoquait d'importance de l'intelligence artificielle, s'ajoute maintenant un certain nombre d'entreprises de la Silicon Valley, mais aussi des grands parmi les GAFA, puisque, si j'ai bien compris, ce qu'on appelle le cloud d'Amazon était ou serait utilisé par le Pentagone, avec des problèmes de sécurité nationale qui se posent.
Oui, bien sûr. Bah, le problème, c'est que quand faut appeler un chat un chat, quand vous travaillez dans un système mafieux pour faire de l'argent, vous travaillez plus pour les États-Unis d'Amérique. Et le meilleur exemple, c'est pas le F-35. Le meilleur exemple, c'est pas le Zumwalt. Le meilleur exemple, c'est concrètement sur le terrain ce qui s'est passé en Irak à partir de 2003 avec Halliburton, qui avait la charge de la logistique de l'armée américaine. Halliburton était à la tête du conseil d'administration, le vice-président Cheney, le grand ami de George Bush fils. Donc voilà, on est dans un système où les gens sont là pour s'enrichir et non plus pour donner aux militaires américains les moyens de mener efficacement leur mission. Pourquoi ? Parce que l'armée américaine, depuis la fin de la guerre du Vietnam, ne mène plus la guerre, et ça c'est ma grande thèse, ne mène plus la guerre pour gagner la guerre au sens clausewitzien, mais pour créer le chaos partout où elle intervient. Parce qu'elle a compris que gagner la guerre militairement n'était plus dans ses cordes et n'avait même plus d'intérêt. Pourquoi s'occuper de l'Irak comme on s'était occupé du Vietnam ? Aucun intérêt. Le but, c'est le chaos en Irak. Le but, c'est le chaos en Libye, le chaos en Syrie. Et peut-être que certains ont espéré que demain, il y aurait le chaos en Iran.
Mais là, c'est plus de la responsabilité du politique que du militaire. Je pense que par rapport à ce que vous dites là, vous mettez en cause les militaires américains dans ces objectifs où ils considèrent que c'est à leur niveau qu'on peut créer le chaos. Moi, j'imagine plutôt qu'ils mettent en œuvre une politique initiale. Mais ensuite, vous savez comme moi que sur le terrain, la guerre, j'évoquais la question du brouillard de la guerre, savait-il ce à quoi il s'exposait en Afghanistan ou en Irak? Il l'aurait peut-être su par une analyse plus fine, notamment en Afghanistan, de la population. Mais c'est quand même un chaos qui, pour le contribuable américain, coûte quand même relativement cher.
Ah bah oui, mais tant qu'il rapporte à cette espèce de mafia gigantesque qui ne dit pas son nom, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, que s'est-il passé au début de cette année en termes d'executive orders de la part de Donald Trump? Il a pris le premier executive order de l'année 2026. Il a pour but de quoi? De limiter le paiement de dividendes ou la revente d'actions des entreprises du complexe militaro-industriel. Sous quelles conditions? La livraison en temps, en heure et en qualité des matériels commandés par le gouvernement fédéral. C'est une première depuis 1945.
Oui, parce que il faut rappeler que les dépassements de coûts dans un programme sont en fait financés par le gouvernement américain.
Bien sûr.
Et alors que les gens de la Silicon Valley, semble-t-il, sont en train d'exiger dans leur contrat que tout dépassement qui n'est pas de leur fait, eh bien, ne leur soit pas imputé. Alors que pour le reste, finalement, tout dépassement est à la charge finalement du contribuable.
Voilà, c'est ça. Donc, on voit bien que l'idée, c'est plus de savoir si tel matériel, etc., va être capable d'être efficace sur le champ de bataille. L'idée, c'est, et c'est ce que dénonçait Oliver Stone dans son film sur JFK et les problèmes du complexe militaro-industriel confronté à la guerre du Vietnam. Hein, je vous renvoie au générique du film JFK d'Oliver Stone. Il dit, voilà. Depuis que Kennedy est mort et que la guerre du Vietnam a pris son envol, voilà ce qu'a gagné le complexe militaro-industriel américain au Vietnam au détriment de 58 000 morts dans ses rangs, enfin dans les rangs des forces armées américaines, de tant de centaines de milliers de blessés, etc., etc. Voilà, parce que on est dans ça, on n'est plus dans l'idée simplement, comme en 1945, ou même parce que pour moi, je pense que ça s'est arrêté avec la guerre de Corée, dans l'idée qu'on va développer une stratégie militaire. Puis excusez-moi, Philippe, mais vous me parlez de l'Afghanistan comme quoi les Américains n'auraient pas compris ce qui les attendait s'ils mettaient un pied là-bas. Alors à quoi bon avoir armé les Moudjahidines contre l'armée rouge pendant 10 ans, hein, si on n'a pas compris ce à quoi on allait se confronter? Là, c'est une injure à l'intelligence la plus
Mais
élémentaire.
oui, mais voyez, c'est toujours une source de réflexion pour beaucoup. C'est quand on connaît un petit peu, qu'on les a fréquentés, certains militaires américains, c'est une haute culture. Et puis, à côté de ça, quand on regarde les décennies passées, une espèce d'incompréhension du monde tel qu'il est. Et je dois dire que c'est pour moi une réflexion, enfin, qui me
Ah
rend
oui.
perplexe.
Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais vous avez quand même des gens comme le général Mattis, hein, qui était l'ancien chef d'état-major de Trump, premier mandat au départ, ancien patron du corps des Marines, qui lui fait partie de ces gens qui, moi, je considère réfléchissent et ont beaucoup réfléchi sur les nouvelles formes de guerre, etc. Et ce qui est terrible, c'est qu'il n'a pas réussi à insuffler quelque chose dans l'ensemble des forces armées américaines, parce que lui, il est très clair, hein, tant que les gens ne lisent pas, tant que les gens n'ont pas la culture historique de la guerre sur le temps long, etc., ça sert à rien de leur confier des postes à responsabilité. Donc, il semblerait que les forces qui traînent l'ensemble vers le bas, qui le tirent vers le bas, sont plus fortes que celles qui voudraient le hisser un peu plus haut que ce qu'il est aujourd'hui.
La culture générale, première école de commandement.
Voilà, voilà. Alors, quand on voit le niveau de l'éducation aux États-Unis, on comprend tout.
Oui, alors votre réflexion nous incite aussi à lire ou relire Emmanuel Todd pour
Eh oui,
considérer
eh oui.
que finalement le substrat de toute notre réflexion, c'est quel est l'état de la société américaine, qu'est-ce qu'elle produit comme type de militaire, comme type de réflexion sur le monde. Et donc ça nous amènerait à d'autres émissions. On peut noter aussi, je crois que c'est vous qui l'écrivez, qu'en fait on est pour les États-Unis, dans une économie de guerre permanente. Et ça contraste beaucoup avec ce qu'on dit en Europe et notamment en France de notre économie de guerre, entre guillemets. La dépense militaire, vous l'écrivez, est un moteur de l'économie. Le F-35, je crois que c'est 1 500 sous-traitants, c'est 40 États qui sont concernés. Donc on comprend les relais que ces industries peuvent avoir au Sénat et à la Chambre des
Des
représentants.
représentants.
Et qu'en matière de compétitivité technologique du pays, ça concerne à la fois les armées et puis l'impérium américain, eh bien c'est la recherche et développement de l'industrie de défense qui tire d'une certaine façon l'innovation américaine. Donc on voit que au-delà des questions purement militaires, on est vraiment dans une question des moyens de la domination américaine ici et maintenant.
Ah, tout à fait. Et puis, il y a une anecdote, je ne l'ai pas rapportée dans le livre, qui illustre parfaitement ça. C'est qu'au cours des votes des rallonges budgétaires pour le F-35, vous avez un journaliste américain qui est venu interroger à la sortie du vote un représentant, je ne sais plus de quel État, en lui disant, mais comment vous avez fait pour voter encore cette rallonge alors que le programme, on sait bien qu'il y a tant de défaillances, qu'il y a tant de ceci, qu'il y a tant de cela. Et l'élu américain regarde le journaliste, il dit, mais attendez, moi, dans mon comté, il y a 1 000 employés chez tel sous-traitant pour le F-35. C'est mes électeurs. Moi, je vote les rallonges budgétaires, j'en ai rien à faire de leur efficacité ou pas. Ce que je sais, c'est que ça va maintenir de l'emploi dans ma circonscription et donc je serai réélu. Donc on a à travers cet exemple un peu humoristique, une illustration parfaite du fonctionnement entre les relais, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça, mais les groupes de pression des cinq grands du complexe militaro-industriel plus des petits nouveaux de la haute technologie au Congrès. Mais c'est quelque chose, mais toute démocratie en bonne santé refuserait que ça existe. Hein, on a des pots de vin qui sont déversés sur les élus du peuple américain pour qu'ils votent en fonction des intérêts de ces entreprises, et alors pas directement en fonction des intérêts des contribuables américains. Alors,
dans un ordre d'idées un peu différent, mais qui s'y rapproche, je ne suis pas sûr que ce qu'on appelait les frais commerciaux exceptionnels liés à nos grands contrats d'armement à l'étranger ne soient pas aussi un peu inspirés par cette proximité entre vente d'armes et puis intérêts privés, particuliers. Voilà. Et je crois qu'on n'est pas complètement exempt, nous aussi.
Je parle de proportion. Pas de mode de fonctionnement, non. Sinon, on va fâcher des gens à Karachi avec nos frégates.
Eh bien, écoutez, cher Sylvain Ferreira, merci pour cette émission. Je rappelle votre livre. Alors, vous l'avez publié à compte d'auteur
Non, c'est publié par The Book Edition. Bon. C'est une plateforme qui permet aux gens de publier. Il n'y a pas de frais à avancer, il n'y a rien du tout. Et ce qui est très bien, c'est qu'il n'y a pas de problème de stock. C'est eux qui gèrent à la commande l'impression de chaque exemplaire du livre.
Voilà. Eh bien, écoutez, merci pour cet entretien dont l'ouvrage de référence était « La fin de la domination américaine », point d'interrogation, mais dont je répète que c'était finalement un point très dense, documenté sur l'état des forces américaines du point de vue de leur doctrine, de leur équipement et du contexte stratégique dans lequel elles imaginent avoir à œuvrer pour les années à venir. Et donc, je ne peux qu'inciter nos auditeurs à se procurer cet ouvrage. Et encore merci, Sylvain, pour votre participation vigoureuse. Vous n'êtes pas dans le politiquement correct. À chacun, évidemment, de se faire une opinion, mais sur la base d'un document, « La fin de la domination américaine » par Sylvain Ferreira, un document fort intéressant et très bien documenté. Merci Sylvain.
Merci à vous, à bientôt.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de la Défense, dirigé par Philippe Nicolardo, assisté d'Axel Eniel, diffusé en direct sur Radio Courtoisie lundi 23 mars 2026, de midi à 13h30 et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs, aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.